7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, c'est le petit journal de l'international signé tous les soirs. Michael Thébault, bonsoir Michael.
Bonsoir Nicolas.
Direction le Brésil pour évoquer un tabou tout autant qu'un drame humain, l'avortement clandestin.
Et clandestin Nicolas parce que toujours illégal et le chiffre est terrifiant. Selon l'OMS, une Brésilienne meurt tous les deux jours des suites d'un avortement pratiqué clandestinement. Et les femmes les plus pauvres sont évidemment les plus touchées. Bonsoir Anne Vignat, en direct de Rio.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, Anne, l'avortement est-il toujours aussi tabou et pourquoi dans cette société brésilienne ?
Oui, tout à fait. Hein. L'avortement n'est jamais abordé en termes de santé publique, mais le débat tourne toujours autour de la question religieuse. Alors au Brésil, 76% de la population est catholique ou évangélique et vous le savez, ces religions chrétiennes sont totalement opposées à la légalisation de l'avortement. Et pourtant aujourd'hui, grâce aux études qui ont été faites, on dispose de beaucoup de données qui montrent à quel point l'avortement est important dans la société. Et c'est ce que nous explique Béatrice Gilly, elle est chercheuse et spécialiste de la question au Brésil.
Une Brésilienne sur cinq a déjà réalisé un avortement dans sa vie. Et leur profil est celui de femmes mariées qui ont déjà eu des enfants. Elles sont pratiquantes, elles appartiennent à toutes les classes sociales. L'étude estime que près d'un million de femmes avortent chaque année et 250 000 femmes sont hospitalisées par an suite à des complications d'avortement clandestin. Dans les débats au Congrès, pour ne pas légaliser l'avortement, l'argument des députés a toujours été de dire que l'avortement n'était pas si fréquent. Mais l'avortement est l'une des causes principales d'hospitalisation des femmes. Et dans certains hôpitaux, il y a autant de femmes qui accouchent que de femmes qui viennent après des complications lors d'un avortement clandestin.
Alors concrètement, Anne, comment tant de femmes font-elles pour avorter si l'avortement reste clandestin ?
Alors c'est vraiment la débrouille hein, pour les femmes. On se repasse souvent les adresses et conseils entre copines. Celles qui ne peuvent pas payer une clinique, en fait, tentent un avortement avec le médicament Cytotec au Brésil. C'est un médicament qui est contre les ulcères et qui est recommandé par l'OMS pour les avortements jusqu'à la 9e semaine. Et comme il n'est délivré que sous ordonnance, il existe un vaste trafic pour l'obtenir. Déborah Diniz est anthropologue à Brasilia et elle a réalisé une étude très complète sur ce trafic de médicaments.
Le Cytotec est la principale méthode abortive utilisée au Brésil. Il existait beaucoup de rumeurs sur les vendeurs de Cytotec qu'on croyait être des trafiquants de drogue du type cocaïne ou crack. Mais en réalité, c'est un pharmacien populaire qui vend ses produits grâce à l'aide d'une pharmacie. Il existe un deuxième personnage dans ce trafic très peu connu qui est le grand trafiquant international de médicaments. Le Cytotec vient au Brésil via le trafic international de médicaments, mais il arrive jusqu'à la femme via ce vendeur qui est à la porte des pharmacies.
Les femmes n'ont donc pas de garantie sur sa qualité et quand il n'est pas bon, les complications peuvent être tragiques si la femme ne se rend pas très rapidement dans un hôpital.
L'avortement clandestin au Brésil. Anne Vignat, en direct de Rio, merci beaucoup.
Et direction maintenant la Grèce, mer Égée. 2500 réfugiés ont encore été secourus ces trois derniers jours par les gardes-côtes, Michael.
Et vous l'avez peut-être entendu, hein, ici même ce matin, dans le 7-9 de France Inter, l'île de Kos au large de la Turquie, qui n'en peut plus. Ces touristes qui fuient les plages envahies par les migrants, les commerçants qui disent leur ras-le-bol, les autorités dépassées. Eh bien, à une demi-heure de là en bateau, sur l'île de Kalymno, juste en face, la situation n'a rien à voir. Là, l'île est beaucoup plus petite, moins touristique, moins riche, mais beaucoup plus solidaire, et c'est même une tradition. Bonsoir Angélique Kourounis, en direct de Grèce.
Bonsoir.
Alors sur Kalymnos, Angélique, on peut le dire, hein, l'île tout entière vient en aide aux réfugiés.
Effectivement. Dès qu'on arrive sur le port de l'île, on voit des matelas, même le sol partagé avec un point d'eau ouvert à tous. Les réfugiés qui n'ont pas trouvé de place dans le dortoir aménagé dans les anciens abattoirs de l'île attendent là leurs papiers. Les volontaires se relaient tous les jours pour les aider.
Ce qu'il faut maintenant, c'est agrandir et installer plus de douches et toilettes pour que les femmes musulmanes qui sont très pudiques puissent avoir accès aux sanitaires. Il faut des installations. Quant à nous, on est une commission de volontaires et nous distribuons les dons des habitants de Kalymnos qui soutiennent beaucoup les réfugiés avec des jouets, de la nourriture, des vêtements, toutes sortes de produits sanitaires et de première nécessité.
Alors cette compassion et cette détermination à aider ceux qui arrivent se retrouvent aussi à la mairie qui doit livrer bataille avec la bureaucratie et écouter Ioannis Kalamitakis, maire adjoint de Kalymnos.
Les Kalimnyots ont toujours été trop nombreux pour pouvoir survivre sur l'île. Alors l'émigration en connaît. Le bâtiment que nous voulons modifier appartient à la mairie, mais nous n'avons pas le droit de dépenser de l'argent pour couvrir les besoins élémentaires des migrants. On le fait quand même, en bidouillant les codes informatiques dans la comptabilité. On n'a pas le choix.
Voilà, la mairie qui truque hein, ses comptes. Et il n'y a pas que les pouvoirs publics angéliques, l'église orthodoxe elle aussi se mobilise.
Oui, absolument. L'Église ne peut pas être en reste selon le pape Yorgos. Et à ses yeux, il est même beaucoup plus important d'aider que d'aller à la messe tous les jours. Écoutez-le.
On est en ligne presque tous les jours avec les gardes-côtes qui nous disent on a besoin de nourriture pour 50, 100, 200 personnes, encore et encore. Alors on s'y met, on cuisine et on leur apporte à manger, parfois à 11h, même minuit.
Le pape Yorgos, comme la mairie et tous les volontaires, s'attendent à des arrivées massives dans les semaines qui viennent. Ils espèrent pouvoir y faire face, mais rien n'est moins sûr. Il faut, disent-ils, que l'Europe débloque des fonds et une réelle volonté pour aider des réfugiés qui ne cessent d'affluer.
Angélique Kourounis, de retour donc des îles grecques de Kalymnos et de Kos. Merci beaucoup. En bref, c'est non, Nicolas. L'Iran refuse la venue à Téhéran du célébrissime chef d'orchestre Daniel Barenboim, à la tête, vous le savez, de la Staatskapelle de Berlin. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, doit se rendre très prochainement en Iran et il avait accepté de parrainer le concert. Tout semblait bien parti, et bien non. Le ministère iranien de la Culture a fait savoir hier que c'était impossible. L'orchestre, d'accord, mais pas son chef. Explication, je cite, « Notre enquête montre que le chef d'orchestre a un lien national et identitaire avec Israël. Il y a été élevé et ses parents vivent là-bas. Il a donc un lien avec ce pays qui est illégitime. » Fin de citation.
Et pour finir sur une note autrement plus festive, Michael, on vous amène maintenant au cœur de Londres.
Et un cœur qui bat Caraïbes, deuxième et dernier jour aujourd'hui du carnaval de Notting Hill à Londres. La plus grande manifestation de rue en Europe. 1 million de personnes en 2 jours. Bonsoir Franck McVon, en direct de Londres.
Bonsoir Michael.
Alors la parade finale a lieu en ce moment même, et même sous la pluie, il y a de l'ambiance.
Ouais, les Caraïbes à Londres, mais sans le soleil. C'était plutôt saison des pluies hein, aujourd'hui, Michael. Tant de chiens à Londres, donc. Mais ça n'a pas empêché la fête. Plus de 60 groupes de musiciens et danseurs prennent part à ce défilé géant chaque année dans les rues cossues de Notting Hill. Les costumes, les véhicules sont souvent très impressionnants. Un festival de couleurs avec beaucoup de participants, en très petites tenues parfois. Alors au départ, c'était vraiment la fête des Caribéens, Jamaïque, Trinidad et Tobago, la Barbade. Aujourd'hui, les groupes viennent du monde entier, comme l'explique Al, qui habite le quartier depuis 40 ans.
Les gens viennent du monde entier pour voir ça. Regardez, tout le monde est heureux. Peu importe la pluie, les gens sont là pour la fête. Il y a toutes sortes de sound systems. Jamaïcains, Malaisiens, Indonésiens, Sri Lankais, Anglais, Arabes, Brésiliens. Des femmes à moitié nues, topless. C'est très fun. Et il y a plein de nourriture, la meilleure qui soit, c'est vraiment sympa.
Alors ce carnaval, hein, Franck, c'est vraiment Londres, contrairement à Paris, qui célèbre sa diversité culturelle.
Et oui, Londres est bien sûr l'une des villes les plus cosmopolites au monde. Le carnaval est une sorte de parenthèse dans le débat sur l'immigration. Pendant un week-end de toutes les communautés, toutes les cultures sont célébrées. Alicia est une londonienne originaire de Sainte-Lucie. Elle ne rate jamais la grande fête de Notting Hill.
Il faut être là, on ne peut pas rater ça. Comme vous le voyez, je viens des Caraïbes, de Sainte-Lucie, la plus belle île de la planète. C'est fabuleux ce carnaval, ça rassemble tout le monde.
Et la météo, ça n'a rien de caribéen aujourd'hui.
Vous savez quoi ? Oubliez la météo, on s'en fiche. Il pourrait bien neiger, je serais là quand même. Et les gens viendraient nous voir. J'adore cette fête. C'est pas la météo qui va m'en priver. Comme vous voyez, on est dans la rue, que le soleil brille ou qu'il pleuve.
Voilà, Michael, je vous attends donc l'an prochain, fin août, avec Nicolas Demorand, j'espère,
on
en plume et en string, hein, sous la pluie à Londres.
Avec plaisir, la parenthèse caribéenne de Londres, avec vous, Franck Madvon. Merci beaucoup et à demain.
À demain, Michael.